Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
C'était la semaine dernière, Emmanuel Macron recevait 600 personnes à l'Élysée, élus locaux, députés, maires, habitants et habitantes des banlieues, représentants et représentantes d'associations, pour leur présenter les leçons qu'il avait tirées du rapport que lui avait remis quelques jours plus tôt Jean-Louis Borloo.
Avant toute chose, je ne vais pas faire un discours, ça peut en décevoir certains, et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais je pense qu'on est au bout de ce que ça a pu produire sur cette méthode. Nous nous devons d'inventer ensemble une méthode, un rythme sans doute différent.
Un non-discours d'une heure et demie tout de même pour présenter non pas un plan, donc malgré quelques annonces, mais une méthode et une philosophie censée mettre fin à l'ostracisation croissante de certains quartiers, leurs habitants. Que penser de cette nouvelle approche? Faut-il y voir une forme de renoncement ou au contraire une rupture nécessaire? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en parler avec nous en studio, trois invités. Stéphane Troussel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du département de la Seine-Saint-Denis. Également avec nous, face à vous, Pierre-Alain Raffan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de La République En Marche de la 10e circonscription de l'Essonne. Vous aviez signé une tribune intitulée « Nous voulons plus qu'un plan banlieue ». Et enfin, en ligne, cette fois pour représenter le milieu associatif, Anne Charpie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice de l'association Voisins Malins. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. D'abord, sur cette nouvelle approche, le fait que l'on n'est pas égrené, comme c'est vrai, cela a souvent été fait dans le passé, un catalogue de mesures plus ou moins financées. Qu'en pensez-vous, Stéphane Troussel?
Je dois dire que c'était un peu surprenant, d'abord parce que le président de la République a commencé par nous expliquer qu'il ne ferait pas de discours, il a parlé plus d'une heure et demie. Il nous a expliqué qu'il n'égrainerait pas des mesures et finalement il en a égrené plusieurs. Et puis surtout, il nous a expliqué qu'il fallait organiser la mobilisation nationale pour les quartiers populaires et rejetant ce qu'il avait lui-même confié à Jean-Louis Borloo de faire pendant plus de 7 mois. Parce que si Jean-Louis Borloo, on peut regarder tel ou tel aspect des mesures qu'il avait proposées, mais en tout cas, il avait réussi à organiser cette mobilisation nationale des élus locaux, des responsables associatifs, des acteurs privés autour de lui pour à la fois partager un diagnostic et puis justement préconiser finalement une chose assez simple, c'est qu'il faut que l'État investisse massivement et durablement sans revenir en permanence en arrière ces quartiers populaires. Et là, on a eu un discours, des annonces qui n'en sont pas, des rendez-vous pour dans 2 mois. Bref, c'est tout l'inverse de cette mobilisation nationale qui est absolument nécessaire pour les quartiers populaires.
Pierre-Alain Raffan.
On n'a presque pas entendu la même chose, mais on était dans la même pièce pourtant. L'événement, et dans le titre de l'événement d'ailleurs, on parlait de mobilisation et de pouvoir réunir justement l'écosystème des banlieues pour exprimer cette nouvelle méthode, cette nouvelle philosophie. C'est ce qui a été fait. Et pour avoir échangé après avec beaucoup d'acteurs, tous secteurs confondus, que ce soit des élus, des acteurs associatifs ou même des habitants qui étaient là.
Mais qu'est-ce qui la distingue, cette nouvelle philosophie, des plans anciens que dénonce Emmanuel Macron?
C'est dans la mise en œuvre. Déjà, dans la mise en œuvre, on va faire confiance. Et ça, c'est un État qui va faire confiance et donner tous les moyens possibles pour pouvoir avoir cette mobilisation d'urgence en même temps qu'un plan long terme. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu déjà des mesures qui ont été mises en place. Je parle du dédoublement des classes dans les REP plus qui a déjà été mis en œuvre. Il y a la police de sécurité du quotidien. Il y a les emplois francs qui touchent autant les entreprises que les associations. Donc ça, c'est des plans qui sont sur moyen long terme. Et là, ce que veut le président, c'est une mobilisation qui va être très très rythmé. Donc il y a un premier rendez-vous qui a été donné au conseil présidentiel des villes qui va piloter ce sujet au mois de juillet et ils vont s'inspirer justement de ce rapport Borloo pour pouvoir suivre tous les 2 mois d'une manière très rythmée.
Donc il n'est pas enterré le rapport Borloo pour vous?
Ah, il n'est pas enterré, il va inspirer justement toute la mise en œuvre que vont mettre en place les acteurs de terrain.
Anne Charpie, votre association met en place des réseaux de voisins dans les quartiers de ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles pour que les habitants s'emparent des plans de rénovation urbaine, par exemple, pour faciliter l'accès aux services publics. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette philosophie, Macron?
Alors, je complète la présentation de Voisins Malins. On fait du porte-à-porte depuis 7 ans dans une quinzaine de villes populaires. On a vu plus de 100 000 personnes. Et on est là pour informer, pour écouter les gens et remonter leurs besoins, leurs propositions, et faire en sorte qu'ils participent au projet qui les concerne. Et donc on a opéré un double constat, qui est que les services dans les quartiers sont appauvris et ils sont pas bien adaptés aux besoins des gens. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut traiter. Et un deuxième constat, c'est que les gens méconnaissent ces services ou se sentent non légitimes, ce qui implique un non-recours aux services et aux droits sociaux. Et donc, les gens qui perdent confiance, en effet, et on a deux mondes qui se regardent en chien de faïence entre les habitants et les institutions.
Mais qu'est-ce que les annonces d'Emmanuel Macron vont changer, alors, pour vous ?
Alors, pour moi, les annonces d'Emmanuel Macron doivent ne pas faire l'impasse sur la présence des services publics et l'accès aux droits sociaux pour 100% des habitants. Et donc, aujourd'hui, dans un contexte de dématérialisation, nous, on observe que 40% des gens n'ont jamais fait une démarche en ligne et se retrouvent de plus en plus exclus. Donc, il faut à la fois une présence des services et un accompagnement sur les usages du numérique. Et puis, le deuxième élément important qu'on a entendu, mais qui demande une mobilisation très forte de l'ensemble des services de l'État, à commencer par eux, c'est une présence et un changement de posture pour écouter les habitants, les prendre en compte et en considération pour qu'ils jouent leur rôle et qu'ils soient, que leurs besoins et leurs propositions soient entendues dans les mesures qui sont mises en place.
Stéphane Trossel, je vous prendre des notes. Vous voulez réagir à ce que disait Anne Charpie ou peut-être
oui,
Pierre-Alain Raffan,
enfin, de manière plus générale, par rapport au débat que vous posez, moi, ce que je constate, c'est que quand il s'agit de prendre des décisions s'agissant des grandes entreprises de ce pays ou des plus gros portefeuilles d'actions ou des assujettis à l'impôt sur la fortune ou même des évadés fiscaux, bah, finalement, la philosophie d'action, la méthode, elle est claire, elle est simple. Il y a des gros chèques qui sont faits à la fin du mois, il y a des rendez-vous, des calendriers, et puis il y a des recettes dont l'État se prive, près de 4 milliards d'euros par an. Et j'avoue que je ne comprends pas bien ce que serait cette nouvelle méthode ou nouvelle philosophie si l'État, la puissance publique, ne prend pas un certain nombre d'engagements précis. Écoutez, il y a un rapport parlementaire qui n'a pas été réalisé par l'élu local socialiste que je suis, qui a été réalisé par un parlementaire de la majorité En Marche et un parlementaire de l'opposition, Les Républicains, sur la situation de la Seine-Saint-Denis, et qui dit les choses claires, simples. L'État ne fait pas ce qu'il faut dans un département comme la Seine-Saint-Denis, en matière d'éducation, en matière de police et en matière de justice. Le président de la République dit qu'il ne veut plus de différenciation, qu'il veut le droit commun. Eh bien voilà, là il a un cas d'école précis, concret. Va-t-il rétablir, dans un calendrier qu'on peut discuter, mais les moyens de police, les moyens de l'éducation, de justice, dans les villes de Seine-Saint-Denis, qu'il s'agisse de la Courneuve, d'Aulnay-sous-Bois, de Clichy, de Montreuil, je pourrais toutes les citer, elles sont toutes concernées. Donc si on veut rétablir les conditions de l'égalité, eh bien il faut des engagements, un calendrier et des chiffres précis.
Pierre-Alain Raffan, sur le nerf de la guerre, l'argent, il y a eu très peu d'annonces sur le financement de ces mesures ou de ces non-mesures peut-être.
Parce que quand on annonce, parce qu'on a beaucoup parlé de 48 milliards, c'était les
estimations du plan Borloo. Ouais.
Ces estimations qui avaient été faites, c'est l'argent qui a été engagé sur les 40 dernières années sur ces sujets-là. Donc, je pense que d'ailleurs on s'est trompé de chiffre et quand on annonce immédiatement des chiffres, on reste dans le pilotage du chiffre. Cette espèce d'indicateur qu'on suit à peu près tous les mois, souvent on passe à côté des choses. Là, ce que veut le président, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un État qui fait confiance et qui va soutenir. Et c'est pour ça qu'il inclut ce conseil présidentiel des villes qui réunit l'écosystème pour proposer, piloter et après discuter directement avec l'État des dépenses engagées sujet par sujet.
Anne Charpie, vous en faites partie de ce conseil présidentiel des villes. Quel sera votre rôle dans ce conseil et qu'est-ce que vous en attendez concrètement ?
Le conseil, à mon sens, va remonter, être une vigile sur les quartiers pour voir si effectivement les mesures sont bien appliquées. Et aujourd'hui, on manque de visibilité sur l'engagement de l'État. Donc je pense qu'il faut, dans un premier temps, s'assurer que l'État montre l'exemple et soit à la hauteur de certains besoins qui sont liés à l'engagement de l'école, de la police, notamment, comme le rappelait le président Troussel.
Et par ailleurs... Ce qui est déjà fait, presque.
Ce qui est déjà fait.
Oui, on parlait tout à l'heure du dédoublement des classes, de la police, de la sécurité du quotidien. Il y a déjà pas mal de mesures qui ont déjà été engagées, et même sur l'emploi.
Je pense qu'il faut aller un cran plus loin, notamment pour l'accès aux droits sociaux de l'ensemble des habitants de ces quartiers. Et ensuite, le Conseil présidentiel sera en mesure de proposer de nouvelles approches et d'enrichir les politiques qui sont menées actuellement. En tout cas, ce sont des personnes qui sont extrêmement diverses, qui ont grandi dans les quartiers, qui ont réussi ou qui travaillent depuis un certain nombre d'années, notamment dans les services publics. Donc je pense qu'elles sont bien positionnées pour alerter et vérifier une bonne application selon la philosophie indiquée, mais avec des vrais moyens.
Alors sur l'aspect éducation, puisqu'on l'évoquait à l'instant avec vous Anne Charpie et vous mentionnez aussi Pierre-Alain Raffan, l'enjeu c'est le milieu scolaire, nous disait Emmanuel Macron. Il répète qu'il mise la prochaine génération et non pas la prochaine élection. Et les moyens ont été mis, le paquet a été mis sur la petite enfance. Ça veut dire quoi? Et est-ce que par exemple il y a l'obligation pour les enfants d'être inscrits en maternelle dès l'âge de 3 ans? Est-ce que c'est une mesure qui vous semble souhaitable, Stéphane Troussel?
L'énoncé de la mesure comme ça, ça paraît noble. La réalité, c'est que s'agissant des enfants de 3 ans, ils sont à peu près à 97% scolarisés. La question, c'est pas les enfants de 3 ans.
Y compris dans les territoires dont on parle aujourd'hui?
Bien sûr. La conséquence de l'annonce présidentielle de la scolarisation obligatoire des 3 ans, c'est surtout pour les collectivités locales qui ont une école maternelle privée sur leur territoire. Elles vont désormais, les collectivités locales, être obligé de participer à leur financement pour les écoles maternelles privées sous contrat. Il aurait dû prendre un autre engagement. C'est que, par exemple, là aussi, il y a une discrimination terrible entre les territoires pour la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans. Alors que la moyenne nationale est environ de 30%, dans ces quartiers populaires, le département de la Seine-Saint-Denis, elle est très faible aujourd'hui. Elle est à moins, je crois, de 1 ou 2% pour la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans. Alors qu'on sait que c'est déterminant pour lutter contre les inégalités à l'école. Mais je voudrais revenir sur la mesure que vous avez évoquée s'agissant du dédoublement. Oui, moi je considère que la mesure de dédoublement
dans les classes de CP,
dans les classes de CP et de CE1, c'est dans le programme présidentiel pour les quartiers en réseau d'éducation prioritaire. Mmh. C'est une bonne mesure. Mais il va falloir absolument poursuivre, la création des postes. Et quand je vois que le gouvernement maintient l'objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, je ne vois pas comment il va tenir cet engagement et son contraire. Et surtout, il va falloir surtout accompagner les collectivités locales et notamment les communes pour créer des locaux scolaires. Parce que dans un département jeune comme le mien, je connais bien par exemple les écoles de la Courneuve, je peux vous assurer que les locaux disponibles dans les écoles maternelles ou élémentaires, pour la ville, ce n'est pas forcément évident. Et alors, là encore, un rapport parlementaire a pointé que les communes ont 30% de moyens en moins et 30% de besoins en plus.
C'est un rapport qui a été fait par deux parlementaires, mais de mémoire, il n'est même pas encore sorti. Il doit être présenté le 31 mai au sein du groupe de travail. Donc, à titre personnel, moi, j'en ai pas encore pris connaissance et j'attendrai les conclusions et les propositions qui rejoindront sûrement les préconisations, sûrement qu'ont fait Jean-Louis Borloo et aussi le président de la République sur le sujet. Alors, mais ce que je voulais dire sur la méthode, c'est qu'on, ça fait 40 ans qu'on fait de la politique de la ville. Il y a eu des améliorations, et notamment avec Jean-Louis Borloo sur l'ANRU. Mais comme disait le président, on arrive au bout d'un système.
L'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine.
Au bout d'un système, parce que là, il faut penser vraiment sur tout le système, et c'est pour ça qu'on mise sur l'éducation, et notamment sur les cités aussi éducatives. Je trouve que c'est une très bonne mesure du rapport Borloo, le fait de pouvoir associer l'éducation nationale, mais aussi tout le réseau d'éducation populaire, les associations, pour avoir tout un parcours du quotidien.
Mais ça va être mis en place ?
Qui permet l'émancipation des jeunes. Et j'en suis persuadé qu'il sera mis en place. C'est une proposition qui a beaucoup de succès.
Pourquoi ne pas l'avoir annoncé alors lors de ce grand discours si elle sera mise en place ?
Parce qu'il y aura aussi une sélection des acteurs et du conseil présidentiel, en cohérence avec les associations et les élus qui sont aussi intégrés au sujet. Et comme le disait, j'aime le dire, Einstein, c'est la folie, c'est de recommencer à chaque fois les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Là, on propose quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode, une nouvelle philosophie. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire confiance, soutenir, pour remettre, comme on le dit, la passion au cœur de la nation et arriver à réussir à sortir ces quartiers, justement, d'une politique différente de la République.
Alors, moi, j'ai bien réécouté le discours d'Emmanuel Macron. Il parle peu ou pas de la question des transports publics, renvoyant à deux futures annonces en juillet. Alors que le rapport Borloo le rappelle, on trouve dans ces quartiers déjà mal desservis, deux fois plus de ménages sans voiture. Si on veut, comme le dit Emmanuel Macron, empêcher cette forme d'ostracisation, comment est-ce que on peut ne pas avoir un plan sur les transports mieux mis en avant, disons?
Mais il y a un plan mobilité aussi qui est mis en œuvre et qui est dans le programme présidentiel, si à l'occasion vous prenez le temps de relire. Et on travaille ça également en local avec les départements et les agglomérations pour pouvoir améliorer. Et je prends le cas de Grigny, qui fait partie justement de ma circonscription. Il y a beaucoup de discussions entre la préfecture, donc les représentants de l'État, l'agglomération et le département pour justement améliorer tous ces réseaux de transport.
Stéphane Troussel.
Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin de plan. Il y a un projet, il existe. Et le gouvernement vient de le mettre en cause. Ça s'appelle le métro du Grand Paris Express, et qui était un projet consensuel entre l'État, avec la région, avec les départements, et qui assurait enfin une vision des transports qui n'était plus...
Il est nettement remis en cause. Il y a certaines portions qui sont décalées dans le temps.
Le gouvernement a fait des choix financiers, contrairement à ce qu'il nous raconte, des choix techniques. Non, il a fait des choix financiers, consistant à considérer, au nom des sacro-saints critères de Maastricht, que l'endettement de la Société du Grand Paris allait peser sur la dette maastrichtienne de la France. Ouh là là, Bruxelles allait nous empêcher de faire le métro qui allait enfin permettre de désenclaver des quartiers. Et donc, il a renvoyé au calendrier grec un certain nombre de lignes qui, justement, répondaient à cet objectif de permettre aux habitants de ces quartiers de cesser de devoir aller sur Paris pour faire le tour de la banlieue, ou de pouvoir être desservis de manière très fine, ou d'être liés aux zones d'emploi de l'ensemble de l'Île-de-France. Et donc ça, c'est une vraie contradiction entre ces discours glorifiant l'énergie de la banlieue, bon et généreux et bienveillant sur la banlieue, et la réalité des actes auxquels nous sommes confrontés depuis un an.
Et le projet sera mis en œuvre.
Avec 5 ou 10 ans de retard.
Alors, autre point moins commenté de ce discours que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'idée que la collectivité, l'État, doit moins chercher à installer dans ses quartiers les populations les plus fragiles, comme les personnes récemment naturalisées, par exemple, ou dans l'attente de l'être. C'est ce qui renforce, selon Emmanuel Macron, une forme de ghettoisation. Est-ce que là aussi, ce sont uniquement de bonnes intentions, ou est-ce qu'il y a du concret, Stéphane Troussel? L'idée de ne pas réinstaller dans ces quartiers dont certains arrivent à sortir. Des populations, des gens aussi en difficulté.
Oui, mais enfin, là encore, c'est notamment la politique de logement et d'hébergement. Il faut que le gouvernement ne prenne pas, là encore, un certain nombre de décisions qui sont contradictoires. Quand dans la loi de finances que vous avez votée, monsieur le député, les organismes HLM, notamment dans ces quartiers, qui ont un pourcentage de locataires qui nombreux à percevoir l'APL, qui vont se trouver ponctionnés massivement, et qui donc, Seine-Saint-Denis Habitat, à 32 000 logements, l'article 152 devenu 126 de la loi de finances, ça a pour conséquence de priver cet organisme de 11 millions d'euros par an. C'est autant d'argent en moins pour construire, rénover, réhabiliter les logements. Et donc, alors que dans ces quartiers, on a besoin de construire, de rénover et de le faire de manière tout à fait diversifiée pour pouvoir accueillir des populations de tout niveau social. Première chose, et surtout, il faudrait que l'État, la puissance publique, assume que dans un certain nombre de quartiers plus favorisés, il y ait des constructions de logements accessibles au plus grand nombre. Parce que sinon, l'engagement de dire, eh bien, messieurs, mesdames les préfets, vous ne devrez plus attribuer des logements aux populations les plus pauvres dans des quartiers où il y a déjà beaucoup de logements très sociaux, eh bien, cet engagement ne sera pas tenu. Il faut dissuader un certain nombre de maires de refuser.
C'est tout l'objet de la loi Élan qui passera à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine et qui est porté par le ministère de la cohésion du territoire, qui va permettre justement de faciliter les constructions et d'améliorer les conditions et la mixité partout en France, d'ailleurs, dans tous les territoires.
Merci beaucoup à tous les trois. On n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la démarche, mais on a quand même eu le temps de dire des choses. Merci Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, Pierre Alain Raffan, député de La République En Marche de l'Essonne, Yann Charpie, qui était avec nous en ligne, fondatrice de l'association Voisins Malins. Merci également à Florence Ponce et Valentin Vaner.